je suis convaincu que Néron a créé le christianisme, loin de le détruire. Mais c'est un christianisme naïf, c'est un christianisme grec, je dirais. Il a été enseigné par Paul Néron, mais il n'a pas compris le message de Paul, bien entendu, et Paul, d'ailleurs, s'est détaché de lui en disant qu'il se prenait pour Dieu, qu'il voulait se faire lui-même Dieu. Enfin bon, les épîtres de Paul sont à lire dans un tout autre sens. Mais c'est à peu près tout ce qui se peut, c'est ce qui se passe dans toute l'histoire de l'humanité. Je vous donnais hier l'exemple de l'imposture universitaire qui consiste à passer sous silence 2 siècles et demi de rationalisme hellénistique, entre la fin de la Grèce et le début de la Rome universelle. On nous apprend en classe qu'il y a la Grèce puis il y a Rome. Ben non, entre les deux, il y a 2 siècles et demi dont on ne nous parle pas. Bon, c'est fabuleux. On n'en trouve pas. Bon, c'est fabuleux. Eh bien, c'est la même chose. On triture l'histoire. On fait raconter à l'histoire des choses fausses. Pour des quantités de raisons. Bon, reprenons. Néron est un très bon exemple de l'imposture. Comment se constitue une imposture historique? Néron est un homme qui... encore une fois, c'est certainement un fou, un homme détraqué au point de vue... Un psychanalyste, évidemment, il y a tous les complexes, même de matriarcat, de l'homme sans père qui a été assujetti à la mère, Agrippine, qui elle était évidemment monstrueuse, qui avait fait tuer qui a fait tuer son premier amant, qui a fait tuer son premier mari, Domitius, qui a fait tuer son deuxième mari, Claude, qui a fait tuer Britannicus, le fils de Claude. Bon. C'était une bonne femme monstrueuse. Elle faisait ça pour faire régner son fils Néron. Enfin. Et Néron était un homme dont on dit à l'époque que c'est une sorte de prince, de prince des légendes, de prince des contes de fées, qui ne veut pas faire le mal, qui veut être innocent de tout crime. Et Sénèque, notamment, le loue d'être cet ange qui prétend régner et innocemment. Bon. Il a quand même été fait roi dans des conditions très particulières, puisque, ayant empoisonné Claude, Agrippine ne fait pas tout de suite connaître la mort de Claude, parce qu'elle ne veut pas que Britannicus, le fils de Claude, risque d'être élu empereur. Elle veut que ce soit Néron qui soit élu. Alors, elle s'arrange pour faire élire Néron par le Sénat, et c'est au moment où l'on proclame Néron empereur, enfin, qu'elle va annoncer la mort de Claude. Et Tacite raconte, et se donne aussi, cette scène horrible d'Agrippine dans la chambre de Claude, dont elle ferme soigneusement la porte pour empêcher qu'on vienne voir le mort, et qui s'adresse au mort, dit « Alors, tu te sens mieux, mon chéri, ça va bien, oui, tu vas mieux, alors qu'il est déjà mort depuis plusieurs heures. » C'est une bonne femme comme ça, Agrippine, c'est quand même quelqu'un de prodigieux. Bon, là-dessus, Néron est à peine empereur. D'ailleurs, les mots abondent qui montrent l'innocence de Néron. La première fois qu'on lui fait signer un acte de mise à mort d'un condamné, il dit pourquoi m'a-t-on appris à écrire ? Pourquoi m'a-t-on appris à écrire si l'écriture doit me servir à faire condamner des hommes ? C'est cela, Néron. C'est un fou, mais c'est un homme possédé d'un besoin de perfection, d'un besoin de vraiment de perfection, c'est indiscutable. Alors là-dessus, Agrippine s'attend à régner. Elle s'attend à régner par l'entremise de son fils, bien sûr. Et elle est là. Elle s'est fait disposer une chambre derrière la salle de conseil, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un conseil, elle est là, et elle sait ce qu'il passe, et elle impose un petit peu à son fils, qui n'a quand même que 18-19 ans, elle lui impose de faire ceci ou cela. Jusqu'au jour où il en a un petit peu assez de ces scènes, et où il la rabroue, il lui dit... Il lui dit, ma mère, c'est moi qui règne, c'est pas vous. Moi, je vous donnerai tout ce que vous voulez, une garde personnelle, vous voulez une garde personnelle, je vous la donne, vous voulez
Voulez-vous une nouvelle garde-robe, les gars? Et puis il me propose à moi, la reine me propose de m'habiller. Elle est folle de hâte. Et il se lève entre le père, entre la mère et le fils, une sorte de haine croissante. Et même ceux, encore une fois, qui détestent, diront, même ceux qui le haïssent, plus tard, qui écrivent quand même 60 ans plus tard, hein, Tacite et Suétone, mais qui écrivent sous un empereur qui déteste Néron Trajan et qui écrivent donc pour démolir le personnage de Néron. Même eux reconnaissent que Agrippine a essayé de faire tuer son fils, jusqu'au moment où les conseillers de Néron lui ont dit il faut se débarrasser d'elle, Et alors Néron accepte qu'on simule un naufrage. Bon, au Baule, qui était le lieu de villégiature de l'empereur romain, on simule ce naufrage, la reine ne meurt pas. Elle se maintient à la surface de l'eau, bon, on la sauve, on la ramène à la mer. Et immédiatement après, l'amiral, qui est l'homme d'année de l'Agrippine, arrive chez Néron, l'épée à la main. C'est à peine si on a le temps de sauver, de protéger Néron, et même Sénèque lui-même, le bon Sénèque, dit à Néron, il faut en finir. Et Tigellius, qui sera l'âme damnée, évidemment, Néron par la suite, il donne l'ordre d'aller tuer Agrippine. Alors on envoie un homme, et quand Agrippine le voit rentrer, elle dit, mon fils est mort, et il dit, non madame, c'est vous qui allez mourir, et il la tue, il plonge l'épée dans le ventre. Bon. Alors, ça, c'est le premier crime de Néron. Il a laissé tuer sa mère. Il y aura un autre crime qui lui est imputable, c'est que il a été marié très jeune, à 12 ans, à une jeune femme, Octavie, qui est de famille princière. Et cette femme, il ne l'aime plus. Bon, il ne l'a jamais aimée, sans doute. Il a 12 ans quand il l'a épousée. Il rencontrera une femme qu'il adore, c'est Poppée, qui est une putain magnifique, magistrale, une des plus grandes avec Messaline, une des plus grandes putains de l'Antiquité, et qui envoûte littéralement ce jeune prince, et qui le pousse absolument à divorcer avec Octavie. Bon, alors il répudie la femme, il lui donne la plus belle maison au Rome d'ailleurs, et Octavie, folle de rage, bien sûr, commence à faire des discours, n'est-ce pas, au balcon pour ameuter le public contre Néron. Alors, on dit, enfin, tout de même, vous êtes l'empereur, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Et il l'exile. Il l'exile dans une île au sud de l'Italie. Qui est donc très belle, il a fait une sorte encore de petit royaume. Bon. Pendant le trajet, elle essaie de suborner. Encore l'amiral, toujours cet amiral, pour tuer Néron. Parce qu'elle n'accepte pas ce déchet. Bon, quand Néron apprend qu'on cherche à créer un complot contre lui, il donne l'ordre de tuer Octavie. Alors, en bas, il va dans l'île et il dit à Octavie qu'il a l'ordre de... qu'elle doit se suicider de par l'ordre de l'empereur. Bon, elle refusera, enfin, il y aura encore sans doute une scène assez horrible. Bon, deuxième crime de Néron. N'oubliez pas que c'est un empereur qui vient après une série d'empereurs qui n'a pas à hésiter devant des crimes pires que cela. Hein. Auguste, Tibère, Caligula, Claude ont fait bien pire. C'est vraiment les deux seuls crimes dont on soit sûr. Et les deux lui sont vraiment imposés par le destin. Là-dessus, Paul arrive à Rome. Il arrive en 60, Néron se met à... Alors d'abord, comment Paul arrive-t-il à Rome? Eh bien, la Bible, c'est dans les Actes des Apôtres. Paul a été, il y a maintenant 27 ans à peu près, qu'il prêche le christianisme. Et qu'il prêche un christianisme qui n'est pas du tout le christianisme des colonnes de l'Église, qui n'est pas le christianisme de Pierre ou de Jacques ou de Jean, parce que eux ne prêchent que des Juifs. Enfin, ils veulent changer, en somme, la mentalité juive. Paul, lui, veut enseigner ceux qui ne sont pas juifs, il veut enseigner les gentils. Bon, donc, conflit. Et Pierre et les autres ont déjà rechassé Paul. Ils lui ont dit, qui êtes-vous? Vous êtes un homme de... Vous êtes un homme, un hellénistique, vous êtes né à Tarse, vous êtes un grec, vous ne comprenez rien au problème. On l'a déjà chassé, n'est-ce pas? Et il a erré un petit peu, il a construit des, il a créé des petites églises un peu en, en Asie mineure, et il revient 14 ans après, et là, il dit, bon, bien, je vais prêcher les, le Christ, que vous, nous soyons d'accord ou pas. À ce moment-là, il commence vraiment à créer des églises en son nom, et il ennuie un petit peu tout le monde, surtout les juifs, bien sûr. Donc les juifs l'arrêtent. Et il va rester 2 ans en prison. Donc ça fait 27 et 2, 29, vous voyez, on arrive à 60, on arrive aux années 60. Il reste 2 ans en prison, et tout de même, de temps en temps, il essaie de dire, bon ben, quand me juge-t-on? Et il finit par y avoir un prêtre qui dit, et surtout un sort de proconsul, c'est pas le mot exact, c'est un que le proconsul ne sont guère qu'autour de Jérusalem, enfin l'équivalent de proconsul de la région, Félix, qui dit, bon, il faut juger cet homme, effectivement, il est depuis 2 ans en prison, qu'est-ce qu'on lui reproche? Bah, finalement, on s'aperçoit qu'on lui reproche rien. On lui reproche de prêcher un messie juif où il n'est pas le seul, d'interpréter les Écritures où il n'est pas le seul. Paul dit, mais maintenant, j'ai appris que l'empereur demande, l'empereur de Rome demande que viennent à lui tous ceux qui ont quelque chose à dire. Que tous les prophètes, que tous les membres de secte, que tous les ceux qui apportent un espoir nouveau à l'humanité, qui viennent à lui, et Néron fait venir effectivement des prêtres du monde entier. Il est obsédé d'idées de religion. Et Félix lui dit, c'est dans l'Évangile, bon, en fait, on aurait pu te relâcher, on aurait pu vous relâcher, parce qu'il n'y a rien contre vous, mais puisque vous en appelez à César, bon, vous allez à l'air. C'est comme ça qu'il vient à Rome. Il vient donc à Rome pour voir Néron. Et donc, il voit Néron, c'est évident. Ça, les actes n'en disent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est, après l'arrivée à Rome, donc, il loue cette maison où il va pouvoir prêcher en paix Jésus-Christ. Donc, il a été compris par Néron. Bon, moi, je pense, parce qu'il y a les épîtres là qui parlent souvent de la maison de Néron, c'est-à-dire la maison dorée qu'il a fait construire après l'incendie, et je pense que Néron est, que Paul est dans l'entourage direct de Néron. Il le dit d'ailleurs dans certaines épîtres, il dit « Je suis dans la maison de César et on me reproche, vous, mes églises que j'ai créées à Cappadoce ou ailleurs, à Pergame, vous me reprochez de les faveurs dont je jouis. » Mais sachez bien que ces faveurs sont extérieures et que je subis des combats violents pour m'adapter à ce monde et que je porte moi aussi les stigmates de Jésus-Christ à ma manière, pas moralement si je ne les porte pas physiquement. Mais tout ça explique bien qu'il est dans l'intimité de Néron. Bon. Or, à ce moment-là, que nous disent les historiens? Que Néron renonce au jeu du cirque et qu'il va créer des théâtres sacrés où il fait argumenter les uns contre les prophètes ou les messianiques du monde entier, il y a une peinture au musée à la chapelle palatine en Sicile qui montre Néron sur son trône, Simon le magicien qui était un des grands magiciens de l'époque, Saint Paul, Paul et Pierre. Pierre qui, évidemment, serait donc à ce moment-là à Rome, aurait donc rejoint Paul. Ouais, on a cette peinture qui est une peinture du byzantine du 8e, 9e siècle, qui montre bien qu'il y a eu cette trace très longtemps que Paul était participé au débat sacré de Néron. Bon, à ce moment-là, les historiens, les seuls que nous ayons, toujours les historiens de Trajan, Suétone et Tacite, vont commencer à nous dire que Néron devient vraiment un être un peu bizarre, que les gens ne l'aiment pas beaucoup, que, enfin, les gens, c'est-à-dire le Sénat, c'est-à-dire les patriciens, c'est-à-dire les riches familles, parce que le peuple l'adore, Néron, le peuple l'adore et l'adorera 40 ans après son mort. Mais les grandes familles le détestent. Et Néron ne salue même plus les sénateurs quand il entre ou sort du Sénat. Hier, vous rendez compte, l'injure, l'insulte de ça. Un président de la République américaine, par exemple, qui ne saluerait plus les fils des grandes familles ou les sénateurs, c'est de cet ordre-là. On le déteste, les grandes familles le haïssent. Et puis alors, il paraît sur une scène, il veut faire du théâtre, il écrit des poèmes, il joue des rôles mythologiques. Il joue le rôle de Thiès, ou le rôle d'Orphée, ou le rôle de, ou des grandes victimes, enfin des Dionysos et autres. Et bon, on le déteste. Et lui, il accroît encore cette haine de mille façons. D'abord, il recueille des impôts considérables. Et ces impôts, qu'est-ce qu'il en fait? Il s'en sert pour affranchir des esclaves. Et il donne cet argent aux esclaves. Des milliers de sesterces qu'il donne aux esclaves. Quand il va partir en voyage en Grèce, il va remettre la Rome, ce qui est incroyable, aux mains d'un affranchi. D'un esclave qu'il a affranchi et qui va diriger Rome pendant 2 ans. Enfin, si vous imaginez ce que cela peut être, donner Rome à un... Là-dessus, il y a eu l'incendie de Rome, dont on l'accuse plus ou moins d'être l'instigateur. Et lui, il fait reconstruire donc Rome. Il veut faire reconstruire Rome comme une sorte de temple au dieu futur, en même temps de ville à la grecque, avec plus de hauts étages, plus de blocages, plus de cimes armées, plus de HLM, c'est pas les HLM qui faisaient à Rome de ce moment-là, mais au contraire, des grandes villas, des parcs, des jardins, des animaux, ou des jardins où le peuple peut venir. Hein. Et tout cela fait qu'on le déteste de plus en plus. Les soldats commencent à se révolter à droite et à gauche. Un général de Lyon, Vindex, se dit « Je ne supporterai pas d'être commandé par un homme qui joue sur les scènes. » Puis il vient, sa folie apparaît au grand jour. Il joue les femmes enceintes, n'est-ce pas, sur une scène. Parce que non seulement il est le dieu futur, mais il est la vierge qui porte le dieu futur, il est la vierge mère. C'est-à-dire Canatos, sinon racheté par le bain annuel, etc. de Canatos. Alors il joue la femme enceinte, il porte son propre dieu, et il est aussi le dieu. Et il se fait charger de chaînes, il se fait fouetter sur la scène. Enfin, Et bon, on l'accuse d'aimer des esclaves aussi, bien sûr, et d'avoir un amant, c'est un homme, Sporos, un esclave libéré. Et alors bon, on en a assez, vraiment assez, et des révoltes grondent, d'autant plus que deux des hommes qui lui succéderont à Amphir, Galba et Othon, sont à ce moment-là des généraux, l'un au Portugal et l'autre en Gaule. Et aussi ces hommes-là qui attendent le pouvoir, qui voudraient prendre le pouvoir, évidemment, ils sont tous contre Néron. Alors, il y a une conjuration terrifiante, une conjuration qui met en jeu les plus grands princes, les pisons, notamment la famille des pisons, qui met en scène des philosophes, des généraux. Il y a 41 conjurés de première grandeur des grandes familles. Or, il va échapper à l'attentat, et chose absolument sans précédent dans les annales d'un empereur romain. Sur les 41 conjurés qui ont reconnu le crime, qui reconnaissent la conjuration, il ne fera tuer, enfin, il donnera l'ordre de suicide qu'à 14 d'entre eux. 14 sur 41. Vraiment, c'est une mansuétude extraordinaire d'un empereur. Les autres vont être exilés, certains vont être totalement pardonnés, d'autres vont se tuer comme Sénèque sans qu'on puisse assurer que Néron a voulu sa mort, simplement il lui a demandé des explications. Évidemment, quand l'empereur demandait des explications, et surtout si on se sentait un peu coupable, il valait mieux se tuer tout de suite. Mais le fait est que quand Néron a envoyé demander à Sénèque de venir s'expliquer, et Sénèque, bon, il s'est ouvert les lèvres. Et quand on vient lui dire que Sénèque s'est suicidé, Néron dit, le fou, est-ce que je n'ai pas assez gracié toute ma vie, que pouvait-il craindre de moi? Et il renvoie immédiatement son médecin pour au moins sauver la femme de Sénèque. Et bon, tout cela n'a rien à monstre, ce n'est pas des réactions à monstre. Le fait est que, quand même, la révolution gagne, malgré l'échec de la conjuration, et on finit par dire à Néron... Si on ne met pas un terme à la conjuration de Lyon, notamment de Vindex, c'est fini. C'est fini, ça va, le Sénat va se retourner contre vous. Et Néron, à ce moment-là, est en train de fabriquer des orgues hydrauliques qu'il fera jouer en donnant ses hymnes de bonté et d'amour. Il a déjà son cortège de prêtresses et de prêtres de Neptune, c'est-à-dire de poissons, pas de prêtres du poisson, c'est-à-dire de prêtres du Christ, je regrette, c'est où le monde n'a pas de sens. Et il dit, bon, eh bien, je vais aller en personne là-bas, avec mes orgues et avec mes prêtresses, et je vais leur réciter des poèmes, les poèmes que je prépare, où je raconte, où je dis mon amour pour tous les hommes, et à ce moment-là, ils tomberont en larmes, ils tomberont en pleurs, et ça sera fini la révolution. Voilà ce que dit Néron, pour mettre un terme à la révolution. Vous voyez l'homme que c'est. Bon, je lui dis, c'est pas possible. On lui dit, de toute façon, il n'y a plus personne autour de lui. Tout le monde l'a plus ou moins quitté. Et il va fuir sa maison, guidé par un esclave. Il a traversé Rome. Il va manquer de reconnaître par un soldat qui, tout de même, ne le dénonce pas. Et ils vont gagner le nord de Rome, dans la maison de cet esclave, où Néron va faire construire son tombeau en disant qu'il ne veut pas mourir de la mort des esclaves. C'est un homme roux, de 33 ans, que le Sénat vient de condamner à mourir la mort des esclaves en croix et sous le fouet. C'est ça. Et il ne veut pas, il veut mourir, il veut mourir de sa propre main. Il n'en a pas le courage, il dit pourquoi devrais-je mourir, et selon une version, c'est son esclave préféré qui enfin lui ouvre la gorge. D'après d'autres versions, il n'a pas été tué ce jour-là et il y aura des légendes donc qui continueront pendant très longtemps de courir et cela s'est produit en juin 68 et en janvier 69 on verra apparaître un homme dans l'île de Cydnos qui est sous la férule d'un homme de Galba bien sûr. Et qui est roux, qui a environ 33 ans, qui est entouré de prostituées, de petites gens, de mendiants, et qui joue de la musique et chante des hymnes, comme Néron rêvait de le faire à la fin de sa vie. Et le gouverneur le fait arrêter, lui dit, mais tu es Néron. Et l'autre dit, bien oui. Ah, c'est c'est 6 mois après la mort de Néron, la mort officielle de Néron. Et le gouverneur fera crucifier cet homme. Effectivement, il le fera crucifier selon la règle selon le jugement du Sénat. Soit qu'il n'ait pas cru que c'était Néron, soit qu'il ait appliqué la règle. Mais on dira encore après qu'on aura vu encore des Nérons qui apparaîtront, etc. Et le peuple l'adorera pendant 40 ans. Et Tacite dit que dans les premiers jours du règne de Galba qui va suivre, les pisons qui étaient de la conjuration, vous rappelez, se disent, ils donnent le dialogue, Tacite dit leur dialogue, mais que faut-il penser alors de Néron, que faut-il faire? Ben, oublions-le très vite. Ben oui, mais peut-être que ce qu'il a fait n'est pas si mal que ça. Bon, en tout cas, ce qu'il a fait sous d'autres empereurs, c'est considéré comme la pire des infamies. Alors, il suffit que le peuple l'adore, on ne va pas nous aussi se mettre à chercher ce qu'il a fait de bien. Je crois que ce dialogue conclut absolument à merveille l'histoire de Néron. Parmi les empereurs qui suivront, vous en aurez qui adoreront Néron, qui prendront son nom, qui se feront ajouter le nom de Néron leur, qui prolongeront la maison dorée, qui essaieront de retrouver ses hymnes et ses poèmes. Et puis, il y en aura d'autres, évidemment, qui le détesteront. Et ce sera ces autres, justement, qui persécuteront les Juifs, notamment, qui détruiront le temple de Jérusalem. C'est-à-dire ceux qui veulent maintenir la famille, la grande, l'Empire romain intact, hors de toutes ces pollutions morales. Et en fin de compte, viendront les grands empereurs pacifiques et philosophes du IIe siècle, c'est-à-dire Trajan d'abord, et puis Marc Aurèle, Adrien. Et ces hommes, évidemment, ne veulent pas du tout de cette hérésie, de ce scandale qu'est le christianisme. Enfin, les premiers seront les derniers, le sacrifice de soi aux autres, l'élévation de l'esclave, l'égalité sociale, et tout ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent absolument pas. Donc, ils se détruisent. Ils détruisent toutes les traces de Néron. Ils détruisent le temple, ils détruisent le Colosseo, ou ils font détruire la statue de Néron, etc. Plus les empereurs célébreront et persécuteront les chrétiens, plus ils s'opposeront au souvenir de Néron. Quant à l'Église, elle a tout avantage à laisser croire que les persécutions ont commencé dès 68. Et surtout, elle n'a aucun avantage à laisser croire que Néron, un empereur romain, était pour quelque chose dans la naissance et la propagation du christianisme. Mais pour vous dire jusqu'où cela va, imaginez qu'il y a à ce moment-là, en 64 à Rome, deux hommes qui s'appellent tous les deux Lucanus, qui ont tous les deux 25 ans, qui ont tous les deux appris la médecine, qui connaissent et qui écrivent en grec, qui sont tous les deux des écrivains, qui vont mourir sensiblement dans les mêmes années. Est-ce que c'est pas beaucoup de coïncidences? L'un est Lucain, le poète de Néron, et l'autre est Saint-Luc. Et des hommes comme Gerbert disaient de Lucain que c'était un des plus grands écrivains de l'humanité. Alors que vraiment la farsale que nous connaissons de lui, qui est un poème épique sur les guerres de César, ne valent pas un tel éloge. Et Dante le met dans sa Divine Comédie, dans son Paradis, à côté d'Homère, de Virgile et des plus grands. Alors, je crois que Lucain, c'est bien Saint-Luc. C'est bien le même homme, ça ne peut pas en être autrement.